Vous écoutez France Musique.
Bonjour, l'opéra après Wagner, rassurez-vous, l'année Wagner, en tout cas le bicentenaire, ça s'arrête bientôt. Alors, l'opéra après Wagner, chapitre 4, Alban Berg, et je vous annonce tout de suite le chapitre 5, Schönberg, qui aurait dû être avant normalement, mais c'est un peu compliqué finalement, les histoires d'héritage. Alban Berg, Wozzeck principalement, mais pas seulement. Et j'emprunte mon épigraphe au petit bouquin essentiel de Dominique Jameux, Berg aux éditions du Seuil, dans la collection Solfège. Je ne sais pas si ça se trouve couramment, mais si vous avez un bon libraire, il peut peut-être vous le trouver. Jameux parle ainsi, Berg et Wagner, deux points, la parenté est certaine, mais apprise et repensée. On ne saurait être plus clair. L'Adagio et Sostenuto qui concluent les fragments symphoniques de Loulou. Le texte est d'Alban Berg à partir de Frank Wedekind et la musique est d'Alban Berg. Ici, c'était Anna Prohaska, les Wiener Philharmoniker sous la direction de Pierre Boulez. C'était l'ouverture du Festival de Salzbourg en juillet 2011. Cette fin de l'opéra est une Liebestode, comme on dit en termes wagnériens, c'est une mort d'amour. C'est simplement singulièrement différent de la mort de Tristan et d'Isolde, puisqu'ici Tristan est joué par une femme. C'est assez bizarre, mais en fait ça existe, ces choses-là. Alors on continue avec le lyrisme wagnérien qui envahit sous forme de citation cette fois le sixième et dernier mouvement de la suite lyrique d'Alban Berg, où il y a une histoire d'amour impossible entre Alban Berg qui est marié et Hannah Fuchs qui est mariée aussi. Donc ça se réduit à une histoire d'amour par lettres interposées. Alban Berg, La, Si bémol, Hannah Fuchs, Si bécard, Fa, qui se retrouve partout dans cette suite lyrique qui, comme l'a dit Adorno, est une sorte d'opéra englouti ou d'opéra fantôme. Le sixième mouvement de la suite lyrique, et puis après on viendra tout de même à Wozzeck, le sixième mouvement de la suite lyrique, c'est aussi un adagio, c'est un largo exactement, Desolato, le quatuor Artemis, Natala Prischipenko, Haim Müller, Volker Jacobsen et Eckhart Runge. C'est le dernier mouvement de la suite lyrique où on entend passer. Il faut vraiment faire très attention, mais vous avez le temps puisque ça dure 5 minutes 45. On entend passer Tristan et Isolde de Richard W. une formule de répétition à vide. On trouve la même chose dans la fin du troisième acte de Wozzeck pour dire que même si c'est terminé, au fond, ça pourrait continuer. C'est le Largo Desalato, dernier mouvement de la suite lyrique d'Alban Berg par le quatuor Artemis. Alors, revenons un peu en avant, puisque, à la différence de Debussy et de Richard Strauss, dont je vous ai parlé il y a peu, Berg n'a pas pu connaître Wagner, et quand il est allé à Bayreuth en 1909, eh bien, l'affaire était déjà aux mains de la DIRCOM de l'époque, Madame Cosima Wagner, qui avait fait tout un tintouin extraordinaire à partir d'une volonté du maître, probablement, qui était de dire que Parsifal ne pouvait être joué qu'à Bayreuth. Et donc, Madame Cosima avait organisé un système extraordinairement pertinent de communication moderne. C'était à la fin du 19e siècle et elle a mis dans le coup non seulement sa famille, ceux qui voulaient jouer à la famille Wagner, le petit Siegfried, il n'avait pas le droit, il était trop petit d'avoir un avis, et puis ceux qui n'ont pas voulu, ils ont été jetés. Donc il y avait obligation, si on voulait entendre Parsifal, d'aller à Bayreuth. Et donc notre jeune Alban Berg, qui est né en 85, donc 2 ans après la mort de Richard Wagner, eh bien, est allé en 1909. Et il a été horrifié par ce qui se profilait déjà, non pas le national-socialisme, on n'est pas encore tout à fait à cette époque, mais tout de même quelque chose d'assez atroce. Il dit dans une lettre à son épouse Hélène, « Ein Lehrwahn », c'est-à-dire un songe creux, une folie, une chose creuse et inutile. Et il dit plus loin qu'il entend parler de Parsifal dans le public en disant que c'est sentimental. Et Wagner écrivit sa musique pour de tels gens, poursuit Alban Berg. Tout celui est une horrible exploitation de l'idée wagnérienne. Il est extrêmement triste de voir ce que la nation allemande a fait au plus grand de tous les Allemands. Bon, c'est l'enthousiasme d'un jeune homme qui aime Wagner, mais le plus grand de tous les Allemands, c'est un peu inquiétant déjà comme idée. Mais dans cet été 1909, il achève son premier recueil, 4 mélodies, opus 2, qu'il avait commencé en 1908. Et je crois que beaucoup de commentateurs ont dit, et c'est assez clair quand on l'entend en entier, mais je ne vous le ferai pas entendre en entier aujourd'hui, les Lieder opus 2, c'est un opéra. En somme, c'est 4 scènes avec une conclusion. Je voudrais vous faire entendre par Dietrich Fischer-Dieskau, qu'on ne remerciera jamais assez d'avoir si bien chanté tout et même des choses qui n'étaient pas intéressantes, mais ça, il avait bien le droit, accompagné par Harry Bertheimen. Je vous propose la première des mélodies de l'opus 2, qui est une sorte de berceuse où passe quelque chose de Wagner, et puis aussi la quatrième, qui est une conclusion d'opéra. Et là, Fischer-Dieskau atteint des sommets de raffinement. Donc, les Lieder opus 2 d'Alban Berg, terminé cet été 1909, où il va voir ses folies wagnériennes à Bayreuth, Dietrich Fischer-Dieskau est accompagné par Haribert Reimann.
Ich zahl's Schlaf. Es schmilzt und glitzert kalter Schnee, ein Mädchen in grauem Kleide liegt an feuchtem Eichstamm, krank sind ihre zarten Wangen, die grauen Augen fieben durch düstere Riesenstände.
La première mélodie de l'opus 2 d'Alban Berg, Schlafen, Schlafen, sur un texte de Friedrich Hebbel, et la dernière, Warm die Luft, sur un poème d'Alfred Mombert. C'est toujours la même histoire, la nuit, la menace, la solitude, et tout de même, le monde est très beau. Eh bien, ça va changer assez vite, le monde n'est pas si beau que ça. Ici, c'était Dietrich Fischer-Dieskau avec Aribert Reimann. En 1928, donc il a terminé depuis longtemps Wozzeck et il est déjà en route vers la suite, il ne le sait pas tout à fait, mais il est déjà en route vers la suite qui s'appelle Loulou. Et il éprouve le besoin d'orchestrer sept leaders de jeunesse. Il les orchestre en 1928 dans le style qu'il a obtenu avec toutes ses œuvres récentes, la suite lyrique, le concerto de chambre et Wozzeck, évidemment, qui est une sorte de récapitulation de toute ses autres œuvres. Ce qui est très fascinant dans ces sept leaders de jeunesse, c'est par exemple pour le premier que je vous propose sur un texte de Karl Hauptmann, ça s'appelle Nuit, et je vous le lis. Les nuages s'étendent sur la nuit et sur le val, les brumes flottent, les eaux murmurent doucement. Voici que soudain tout se dévoile. Oh, prends garde, prends garde. Un vaste pays de merveilles s'est ouvert. Des montagnes d'argent se dressent, grandes comme un songe. Dans une lueur d'argent, des sentiers paisibles gagnent la vallée depuis des entrailles secrètes. Et le monde, sublime, aussi pur qu'un rêve. Un être muet se dresse au bord du chemin, noir comme l'ombre. Le souffle d'un lointain bosquet s'exhale doucement, solitaire, et de l'obscurité du profond vallon, scintillent des lumières dans la nuit muette. Bois, Ô mon âme, bois la solitude, ô prends garde, prends garde. Si je n'étais pas un peu trivial, je vous dirais que c'est exactement le paysage de la dernière scène de Wojciech, où Wojciech se noie. Il ne boit pas la solitude, il boit la tasse et il meurt. C'est le même décor de théâtre. Et alors, ce qui est peut-être encore plus intéressant dans cette mélodie, c'est qu'on voit que Alban Berg, dans cette époque déjà, au début, avant qu'il ait commencé à travailler avec Schoenberg, il avait déjà écouté Debussy. Écoutez bien. Le premier des sept leaders de jeunesse orchestrés par Berg en 1928, soit après la création de Wojciech, c'était Nuit sur un texte de Karl Hauptmann, et c'était Jesse Norman qui était accompagné par l'Orchestre symphonique de Londres et Pierre Boulez. Alors, avant d'arriver à Wojciech, il y a donc le chant, il y a le piano, il y a déjà aussi le quatuor à cordes, pas la suite lyrique qui est après, mais le quatuor opus 3. Donc, le premier opéra de Berg, Wojciech, est une récapitulation. Et récapitulation, et il faut peut-être maintenant regarder l'orchestre tout seul. Il n'y a qu'une pièce de Berg pour l'orchestre tout seul. Ce sont les trois pièces opus 6 de 1913-1914. Et de manière, me semble-t-il, très signifiante, Alban Berg note sa première pièce, Préludium. C'est dire qu'on est dans le monde de l'opéra. Et ce qui est merveilleux dans ce prélude des trois pièces pour orchestre opus 6 d'Alban Berg, c'est que c'est le début de la musique et la fin de la musique. L'idée que la musique et la vie naît de rien et disparaît dans rien, dans le silence. La courbe de cette œuvre est une courbe de type Tristan et Isolde, cela en 5 minutes. Alors naturellement, quand on cherche une version discographique des trois pièces opus 6 d'Alban Berg, on se tourne vers Pierre Boulez, qui l'a fait une fois, ou vers Claudio Abbado, qui l'a fait deux fois, avec Londres et avec Vienne. Et puis je me suis souvenu que nous avions été, quand nous étions très jeunes, fascinés par l'apparition de Karajan dans ce répertoire, qui ne l'avait pas beaucoup fréquenté, puisque cette musique était interdite sous l'époque nazie. Et puis il s'y est mis sur le tard et le résultat est renversant. En particulier dans ce préludium des trois pièces opus 6 de Berg, je trouve que le léger ralenti et le rubato de la fin de la pièce est inimitable, car Karajan est là aussi un très grand. La première des trois pièces opus 6 d'Alban Berg, Préludium, par les Berliner Philharmoniker, sous la direction d'Herbert von Karajan, ça a été enregistré en 1973. Le Préludium, première pièce des trois pièces opus 6 pour orchestre d'Alban Berg par les Berliner Philharmoniker en 1973 sous la baguette d'Herbert von Karajan. Ceux d'entre vous qui connaissent bien la musique de Berg auront repéré dans les dernières mesures de ce Préludium un motif de timbale qu'on retrouve dans le troisième acte de Wozzeck. C'est assez amusant, la circulation chez un musicien aussi concentré que Berg, circulation de petits motifs et d'obsessions, on pourrait dire. Et c'est dans ce sens qu'il a repris l'héritage de Richard Wagner avec Wozzeck. Le troisième acte, c'est une série d'inventions, inventions sur un thème, inventions sur une note, avec la fameuse note si, qui signifie la mort. C'est surtout l'idée que la transposition dans l'opéra tardif par rapport à Wagner, la transposition du système des leitmotifs est devenue une transposition plutôt de signaux. Ce sont plutôt des signaux que des motifs. On les sent comme omniprésents et non plus la fonction qu'avaient les leitmotifs chez Wagner. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'au fond, Wagner a obligé ses successeurs à se définir par rapport à lui. C'était très dur pour quelqu'un comme Debussy, c'était moins dur pour quelqu'un qui était extraordinairement doué au point de vue orchestral et vocal comme Richard Strauss. C'est certainement encore moins dur pour Berg parce que Wagner est loin en 1910, 15, 20, 25, c'est loin. Puisque Berg voit Wozzeck de Büchner au théâtre le 5 mai 1914 et que Wozzeck, son opéra, sera exécuté en première audition mondiale à Berlin, au Staatsoper, le 14 décembre 1925. Donc presque 11 ans de la vie d'Alban Berg et une curieuse unité de lieu et de temps qu'on trouve aussi dans l'Electra de Strauss, qu'on trouve ici, au fond. C'est une manière de réagir à l'omniprésence du temps et du passé chez Wagner. Donc il a obligé ses contemporains et ses successeurs à écrire autrement. Je vous propose le troisième acte en entier. Vous savez, chez Berg, tout est très court. Le troisième acte en entier de Wozzeck. Alors, j'ai hésité parce qu'il y a une version qui est, à mon avis, magique. C'est celle de Mitropoulos, mais elle a été enregistrée dans les années 50 et elle n'a pas la perfection technique qu'a la version que je vous propose ici, où il y a une des plus grandes maries de l'histoire de Wozzeck. C'est Anya Silia. Wozzeck, c'est Eberhard Wächter. Et puis, nous avons le Wiener Staatsopernchor, préparé par Norbert Balatsch, qui aussi allait à Bayreuth. Et les Wiener Philharmoniker sont les directions de Christoph von Dornani. Je ne crois pas qu'il y ait eu de plus belle marie que Madame Silia.
Oh! Zitterst.
Thank you.
ganze Welt es ausplaudern. Das Messer, es liegt zu weit vorn. Sie finden's beim Baden oder wenn Sie nach Muscheln tauchen. Ich find's nicht. Aber ich muss mich waschen. Ich bin blutig. Dalfek und nachher! Ich wasch mich mit Blut! Das Wasser ist Blut!
Thank you.
Une fin suspendue, comme dans le dernier mouvement de la suite lyrique. Ici, c'était le troisième acte de Wozzeck d'Alban Berg, d'après le Wozzeck de Georg Büchner, et plus exactement des fragments de cette œuvre que Georg Büchner n'a pas terminée, n'a pas mise en ordre. Et tout le travail de mise en ordre du scénario de l'opéra a été fait par Alban Berg. Et il a eu cette idée géniale de transformer Wozzeck, qui n'est pas très facile à prononcer, en Wozzeck, qui est beaucoup plus facile, on l'entend dans toutes les scènes avec le capitaine et le docteur. Ici, nous avons entendu Marie dans le personnage d'Agnès Silia. Je vous disais que c'était la plus belle Marie, mais en l'écoutant, je pensais à toutes les autres aussi qui sont magnifiques, Waltraud Meyer, Christa Ludwig, Sena Jurinatz. Parmi d'autres, Wozzeck était Eberhard Wächter, le capitaine Heinz Zetnik, le docteur Alexander Malta, Margret Gertrude Jahn et les solistes, y compris les petits garçons de la scène finale, sont des membres du Wiener Staats Open Chor préparé par Norbert Balatsch. Les Wiener Philharmoniker sont sous la direction de Christoph von Dornani et on voit ce petit garçon qui joue sur son cheval de bois. Au fond, le processus de déshumanisation dans l'opéra est commencé là et ça continue avec Loulou puisque Loulou se prend pour un serpent. Donc l'humanité se perd dans l'animalité. Il y avait déjà quelque chose de ça chez Wagner avec tous ces personnages monstrueux comme par exemple le fameux Fafner qui est un dragon. Mais ça, ça rejoint la dimension du conte populaire. Vous écoutez France Musique, vous écoutez Le Matin des Musiciens, il est 12h09 et normalement ce chapitre 4 devrait s'arrêter ici. Mais comme vous savez, on va jusqu'à 12h26, 27, 28, ça dépend des jours. Et il y a un chapitre annexe. Avant de traiter Schoenberg, et sans avoir traité Mahler, puisque Mahler ne s'occupe pas d'opéra, il en a dirigé beaucoup, mais il n'en a pas écrit, ce qui est assez surprenant, encore que la deuxième partie de la 8e symphonie pourrait être considérée comme une scène d'opéra. Ce n'est pas tout à fait le sujet, mais on va revenir à l'oncle de l'école de Vienne, le beau-frère et professeur de Schoenberg, Zemlinski, Alexandre von Zemlinski, qui a écrit une symphonie lyrique, et cette symphonie lyrique est justement citée dans la suite lyrique d'Alban Berg. Autant dire que c'est encore Tristan qui rôde là, et je voudrais vous faire écouter un grand fragment de cette symphonie lyrique, en particulier le troisième chant, qui est le chant qui fait référence à la suite lyrique d'Alban Berg.
Geschmack des Weins aus meinen Leinen. Du bist mein Eigen, mein Eigen. Du in meinen einsamen Träumen mit dem Schatten meiner Leidenschaft hab ich deine Augen geschwärzt. Yeah.
Parle-moi, mon amour, c'est ainsi que s'achève le quatrième des chants de la symphonie lyrique d'Alexandre von Zemlinsky. Ici, c'était Deborah Voigt, les Wiener Philharmoniker, avec aussi Brinterfell pour le troisième chant, et c'était Giuseppe Sinopoli qui dirigeait tout ce monde-là. Au fond, ça n'est pas très différent de la prière qu'adresse la comtesse Geschwitz à Loulou, qui est déjà morte, mais au fond, c'est l'idée que l'amour est éternel, même si l'un des deux personnages disparaît. C'est un des, comment dire, un des structurants forts de l'opéra depuis Richard Wagner, depuis Tristan et Isolde, qui décidément rôde beaucoup par là-bas. Eh bien, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné, Cécile Gissot, François Pron, Déborah Dagobert, Elisabeth Gornet, Véronique Kerdiles et Géraldine Prutner. Et puis, eh bien, ça continue, naturellement. Lundi, c'est Édouard Fauré-Colfuti qui officie. Et moi, vendredi, je participerai, comme toute la chaîne, à la semaine consacrée à Benjamin Britten pour son centenaire. Et j'ai la chance de travailler le 22 novembre. Le 22 novembre, c'est la Sainte-Cécile. Et en plus, c'est la date de naissance de Benjamin Britten. Alors, j'ai choisi de me faire une sorte d'obligation. Pas de Peter Pierce et pas de texte en anglais dans la musique de Britten. Vous verrez, il y a de la très belle musique, puis il y aura aussi un tout petit peu de Shosta. Je vous souhaite un excellent week-end à l'écoute de votre chaîne favorite et j'espère vous retrouver à l'écoute vendredi pour un matin des musiciens sur le baron Britten of Aldborough.